Les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Aïm Corsia, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais que vous nous parliez des femmes aujourd'hui. D'abord, le mot « femme » lui-même, comment se dit-il en hébreu ?
Alors, c'est intéressant comme question, parce que c'est quasiment l'interprétation. Et là, on va commencer par « homme ». L'homme se dit...
Alors, c'est plus le sujet,
enfin. Si, c'est le sujet, parce que n'oubliez pas que nous venons tous d'un seul être, Adam, qui est créé homme et femme. C'est comme ça dans la Genèse, homme et femme, il est ensemble. Il s'appelle Adam. De là sort deux êtres, un homme, Ish, et la femme, Isha. Il se trouve que, pour les deux, si on enlève, ils sont écrits avec trois lettres chacun. Si on enlève dans chacun les deux lettres qui viennent du nom de Dieu, il se trouve qu'il nous reste pour les deux, chacun, deux lettres qui forment le mot feu. C'est-à-dire que, un homme ou une femme, si on enlève cette spiritualité, il reste que les pulsions, il n'est pas très différent d'un animal où il y a le feu. Et je crois que c'est peut-être ça, fondamentalement, ce qu'un homme ou une femme. C'est une aspiration à essayer de manifester la présence de Dieu sur Terre. C'est essayer de mettre de l'ordre dans un monde qui est en désordre. Et la femme a ceci de particulier dans la Bible, c'est qu'elle anticipe bien plus loin que l'homme, toujours. Regardez l'histoire de la Bible, c'est quand même assez étonnant. On connaît les patriarches, bien sûr, Abraham, Isaac, Jacob. Enfin, on oublie que Abraham n'est rien sans sa femme Sarah, qui elle anticipe, puisqu'elle lui donne sa servante Agar pour avoir Ishmaël. Ensuite, elle a un enfant avec lui, Isaac. Elle renvoie la servante. Elle prend des décisions difficiles, mais qui vont conditionner tout l'avenir du peuple d'Israël. Même chose avec Rebecca, même chose avec Rachel, même chose avec Léa, toutes les matriarches. Pensons que, par exemple, il y a un épisode extraordinaire de la Bible, où Moïse, quand même celui qui va recevoir de Dieu les tables de la loi sur le mont Sinaï, Moïse revient en Égypte. L'Éternel lui dit, écoute, reviens en Égypte sortir le peuple, car sont morts tous ceux qui voulaient ta fin. Donc, il revient en Égypte. Il est marié avec cette Tsipora et ils ont deux enfants. Mais il était tellement pris dans les affaires du peuple qu'il avait oublié de faire la circoncision de ses enfants. Et la Bible nous raconte, c'est très clair, c'est pas un commentaire, c'est la Bible, nous raconte que un serpent est venu, a voulu s'emparer des enfants. Et c'est Tsipora, la femme, qui va dire non stop, elle va faire la circoncision elle-même. C'est comme si on disait, voilà, la femme, elle voit loin et elle sait agir dans l'urgence. Et c'est peut-être cette capacité à être complémentaire de ce que peut apporter l'homme. Et peut-être que dans la Bible, c'est ça l'idée que la première personne, vous voyez, je fais attention à ne pas dire le premier homme, la première personne est créée homme et femme en même temps, c'est-à-dire qu'il est un tout, Dieu le sépare, et ensuite, on doit essayer de retrouver cette complémentarité première. Comme s'il était évident qu'un tel doit se marier avec une telle.
C'est une complémentarité à retrouver, c'est pas une nostalgie d'un état perdu.
Non, non, c'est une complémentarité, complémentarité à retrouver dans la construction d'une sorte d'harmonie parfaite. Et d'ailleurs, par-delà les coups de foudre, il y a des couples dont on perçoit parfaitement qu'ils sont dans le cadre de cette harmonie parfaite. C'est pas forcément les couples qui s'entendent bien, c'est pas forcément grâce à Dieu les couples qui se bagarrent bien, sont des couples où il y a une sorte de complémentarité. Chacun apporte à l'autre quelque chose qui lui est essentiel et qu'il est seul à détenir. C'est une alchimie assez difficile à concevoir. Et le Talmud dit, qu'est-ce que Dieu fait toute la journée? Bon, ok, il crée le monde, il le recrée tous les jours. D'accord, ça demande du boulot bien occupé, même pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il met ensemble les couples, il apparaît les hommes et les femmes ensemble. Et ben, pour Dieu, c'est un travail à plein temps. Donc, comprenez que parfois, on puisse, nous, les hommes et les femmes, faire quelques échecs.
Merci Aïm Corsia. Alors, les commentateurs, justement, tous les rabbis qui nous ont, les rabbins et les rabbis qui nous ont fait des commentaires, que disent-ils? Est-ce que cette notion que vous nous développez là, qui est une notion un peu première, est-ce qu'elle évolue au fil des siècles?
Il y a quelque chose de très important. Ça, je vous ai parlé de la Bible. Ensuite, il y a une loi qui est composée de 613 commandements. 613 commandements qu'on peut séparer en deux. Il y a 365 commandements positifs et 248 commandements négatifs. Positif, c'est fait. Négatif, ne fait pas.
Ne fait pas, oui, des interdits.
Dans ceux qui sont positifs, on les partage en deux. Ceux conditionnés par le temps, ceux qui ne sont pas conditionnés par le temps. Par exemple, fais ceci le matin, fais ceci le soir, fais ceci la nuit, quand c'est conditionné par le temps. Les femmes sont dispensées de tous les commandements positifs déterminés par le temps. Je vais tenter de vous donner...
Et pourquoi donc ?
Voilà, une interprétation. En fait, il faut revenir à la fonction première d'un commandement de Dieu. Ce n'est pas uniquement pour lui faire plaisir. Faites ça parce que ça me fait plaisir. Parce que ça nous ancre, nous, dans un enchaînement et dans un cadre qui est important pour nous. Quand on fait un commandement positif déterminé par le temps, on prend conscience du temps. Eh bien, le Talmud de la Bible nous affirme que les femmes ont en elles une horloge du temps, certains dire l'horloge biologique, peut-être parce qu'elles sont réglées, parce que la notion de temps, elles la perçoivent intimement, et elles n'ont pas besoin du support quasi artificiel des commandements à accomplir pour comprendre le temps. C'est donc bien qu'elles perçoivent avant les autres ce qui va arriver, parce que la notion de temps, elles la vivent. Ce n'est pas une notion extérieure qu'elles essayent d'intégrer, la notion du temps, c'est elles. Le temps, c'est les femmes.
Alors ça va les dispenser de quel commandement, par exemple ?
Par exemple, ça va les dispenser de mettre les phylactères le matin. C'est ce qu'on met pour faire la prière le matin. Je suis désolé maintenant, depuis le temps qu'on fait les mots de la Torah, j'ai le sentiment de parler quasi à un collègue rabbin.
Mais donc, c'est presque.
nous avons, par exemple, des phylactères, c'est-à-dire des boîtiers en cuir dans lesquels il y a des versets de la Bible, tous les matins qu'on fait la prière. Mais comme on doit les mettre que le matin, les femmes sont dispensées. Par exemple, il y a un autre commandement où on doit sonner la corne à un moment, où on doit agiter un loulaf. Tous les commandements déterminés par le temps, les femmes en sont dispensées parce qu'elles n'ont pas besoin de ce support extérieur pour vivre quelque chose qui est une évidence pour elles. Et c'est vrai que psychologiquement, les femmes sont plus sensibles aux aléas du temps que les hommes qui sont souvent dans un caractère immédiat des choses.
C'est une de leurs caractéristiques.
C'est une des caractéristiques des femmes. Ceci dit, pas faire une typologie absolue, mais je note simplement que cette idée-là est intéressante parce que c'est vrai que quand en sémiologie j'avais travaillé, sauf presque quand on étudie la sémiologie, c'est-à-dire on détermine les mots, les concepts beaucoup plus valorisés par les uns ou par les autres, les hommes manifestent un intérêt évident pour des concepts de caractère immédiat, alors que les femmes sont beaucoup plus dans un caractère lié au temps, c'est-à-dire qu'elles ont cette notion du temps est une évidence parce qu'elles la perçoivent quasi intuitivement.
Alors vous, personnellement, Haïm Gorsia, quel est le portrait de la femme dans la Bible qui vous touche le plus ?
Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Rachel. Rachel, c'est la femme adorée de Jacob. Il est raide dingue d'elle. Puis il doit l'épouser finalement. Au bout de 7 ans, il ose demander sa main à son père. Ça fait 7 ans qu'il est là, il la voit, il demande sa main à son père. Son père, là-bas, le père de la petite, dit à Jacob, « Ok, mais tu travailles 7 ans, je te donne ma fille. » Il retravaille 7 ans. Au bout de 14 ans d'attente, il va enfin épouser la petite. Et le père de la fille a une autre sœur, une autre fille, qui est âgée, plus âgée qu'elle, Léa.
Il devrait se marier avant, alors.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il change les filles, et au lieu de lui livrer, en quelque sorte, de lui donner Rachel, il lui donne Léa.
C'est un abus de confiance total.
Et il lui dit, mais pourquoi tu m'as trompé ? Il dit, parce qu'on n'a pas l'habitude chez nous. J'allais le faire avec l'accent corse. On n'a pas l'habitude, petit. De marier la petite avant la vieille. En gros, c'est ce qu'il lui dit. C'est dans la Bible, clairement dans la Bible, dans la Genèse. On n'a pas l'habitude, nous ne faisons pas ainsi chez nous, de marier la petite, la puinée avant l'aînée. Et donc, Jacob se trouve marié de facto avec Léa, mais comme il est rad amoureux de Rachel, il attend de nouveau 7 ans pour pouvoir épouser la deuxième. Et il attend. Et on voit tout l'amour de cet homme et cette femme qui, c'est étrange, parce que cet amour est tellement fort, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon je suis comme morte. Et lui dit, est-ce que tu me prends pour l'éternel ? Elle lui dit, j'ai ton amour, mais je voudrais pouvoir perpétuer cet amour dans le temps. Parce que si j'arrive pas à le faire vivre au-delà de nos corps, et nos âmes maintenant, alors il manquera quelque chose. Et ils vont prier tous les deux, à la fin ils vont avoir des enfants, ils vont avoir bien sûr Joseph puis Benjamin. Mais cette histoire extraordinaire d'une femme qui est folle amoureuse d'un homme, et elle va être complice de sa sœur, parce qu'elle peut pas, ça peut pas se faire sans son aval, ce changement. Mais elle veut pas que sa sœur soit humiliée. Donc elle laisse faire par respect de sa sœur. C'est toute la tragédie grecque
c'est
est déjà là.
C'est Cornélien, j'allais dire, voilà. Quasiment.
Toute la tragédie grecque est là. Elle est folle amoureuse d'un homme, mais elle est capable de tout perdre par amour de sa sœur. Et en même temps, elle veut tout donner à cet homme parce qu'elle en est amoureuse. Et elle va faire toujours les choix qui sont difficiles, mais les choix de force. C'est une femme, par exemple, qui va oser s'opposer à son père, finalement. Ce père qui est terrible. Elle va oser s'opposer à lui, à le défier, elle va oser le défier. Parce qu'elle croit à ce qu'elle fait. Je trouve que dans la Bible, peu de femmes sont aussi fortes que cette Rachel, même s'il y en a d'autres qui sont magnifiques. Esther, c'est une des grands personnages de la Bible.
On va se le garder pour l'année prochaine, c'est autre, parce que comme ça, Haïm Korsia, chaque année, et j'espère pendant très longtemps, nous évoquerons avec vous les femmes de la Bible. Merci infiniment, et à bientôt.